T comme travail, travail notion fondamentale, puisque le travail est à la fois ce par quoi procède l'aliénation de l'homme, il est à la base du mode de production capitaliste, sous la forme du salariat, d'où est tirée la plus-value. Mais en même temps, le travail est également le moyen qui permettra de satisfaire les besoins individuels et collectifs dans le cadre de la propriété collective des moyens de production. En ce sens, ne peut-on pas dire de Marx que Marx aborde la question du travail comme un rapport social, que pour Marx, le travail est d'abord un rapport social?
Oui, la notion de travail va naturellement bien au-delà de la théorie marxiste. C'est une notion qui est d'un emploi quotidien et qui fait l'objet de toutes sortes de recouvrements idéologiques. Il y a dans les maximes du langage commun des formules telles que le travail c'est la santé, tout le monde a entendu ça, le travail c'est la liberté. Le travail c'est la liberté, on ose moins le dire maintenant parce que c'est ce qui était affiché à l'entrée des camps de concentration d'Asie, Arbeit macht frei, c'est-à-dire le travail rend libre, le travail c'est la liberté. Donc il y a des couches qui se superposent à cette notion et qui l'englobent dans de véritables idéologies. Par ailleurs, on le fait remarquer souvent, la notion de travail en français est empruntée au latin tripalium. Le tripalium, c'est le supplice, c'est l'instrument sur lequel on vous torture. Il y a donc cette autre idée que le travail, c'est la contrainte, c'est une forme d'asservissement. On a l'impression que l'homme, dans les traditions religieuses, a été condamné au travail par punition. Quand il est dans le jardin d'Éden, il n'a rien à foutre. Il est tranquille, il tend la main, il trouve des fruits. À partir du moment où il a péché, le travail lui est imposé. Il y a donc vous voyez, des idéologies de la valorisation du travail et des idéologies qui font du travail une malédiction, une punition. Aujourd'hui, nous voyons que l'obsession sociale qui existe dans tous nos pays, c'est celle de l'absence de travail, c'est-à-dire l'idée de chômage ou l'idée de travail morcelé, de travail insuffisant pour assurer des conditions d'existence normales, disons, dignes. Et on est arrivé à formuler même ce qui peut paraître un véritable monstre conceptuel, la notion de travailleur pauvre. L'idée de travailleur pauvre est une idée qui aurait surpris Marx, parce que à partir du moment où le travail est accompli, rétribué par un salaire, ce salaire doit permettre la reproduction de la force de travail, même si c'est dans des conditions extrêmement précaires. Voilà, je crois qu'on peut voir ces choses-là au début pour voir quels sont les enjeux et que tout ça est très très chargé dans l'histoire de l'humanité. On trouverait des multiples formes qui mêlent d'ailleurs ces deux thèmes, c'est-à-dire celui de la valorisation, qui est naturellement plein d'arrière-pensée, et celui de la dépréciation du travail auquel on oppose l'oisiveté, on oppose le loisir. Alors tout ça aussi est un autre champ, laissons-le de côté. Laissons-le de côté pour aborder ce qui fait le fond de la question, c'est-à-dire la relation que j'ai déjà mentionnée entre le travail et la valeur. C'est-à-dire, très exactement, entre la survaleur et le surtravail. Parce que c'est cela qui est le fond des choses. Et c'est ainsi que, chez Marx, il faut reconstituer l'itinéraire intellectuel qu'il a suivi pour parvenir à une compréhension du travail qui soit une compréhension que l'on peut qualifier de scientifique. C'est ainsi que Marx, pour résumer brièvement son itinéraire, Marx a commencé dès ce qu'on appelle les manuscrits de 44, donc un travail de jeunesse, à réfléchir à la notion de travail comme une notion centrale de la théorie de l'homme qu'il constituait à ce moment-là. Et ces réflexions étaient en bonne partie empruntées à Hegel, à la théorie du droit de Hegel. La première équation que Marx établit, c'est l'équation entre le travail et l'aliénation. Le travail est aliénant dans la mesure où le travail amène à détacher le travailleur de son produit. Alors, à ce moment-là, Marx développe des considérations qu'on peut considérer comme philosophiques sur la notion de travail. Et effectivement, vous voyez tous les thèmes qu'on peut développer à partir de cette relation travail-aliénation. Dans un deuxième temps, c'est celui qui, chez Marx, aborde ce qu'il appellera ensuite constamment la critique de l'économie politique. Il pense le travail comme travail productif, le travail dans la production, c'est-à-dire il pense non plus la relation travail-aliénation, mais travail-valeur. Le travail-valeur. Toutefois, lorsqu'on a établi la relation entre travail et valeur, on s'est approché de la notion scientifique de travail, mais on ne l'a pas cernée encore. Pour la cerner, il faut arriver à élaborer le concept de force de travail. Pourquoi est-ce que la force de travail, c'est le noyau d'une conceptualisation scientifique ? Bien, tout simplement parce que ça montre que le travail est une marchandise. Et que cette marchandise a la particularité de créer de la valeur. Créer de la valeur, ce qui est engagé dans le procès de travail, c'est la force de travail, c'est-à-dire la manière dont on la rétribue et la manière dont on l'exploite. C'est-à-dire que la dernière fois, nous avions vu cela en parlant du travail extra. On débouche ici directement sur la théorie de la survaleur. La théorie de la survaleur, la valeur qui est fondée sur le temps de travail, n'est pas fondée sur le temps de travail individuel. Elle est fondée sur la quantité de travail socialement nécessaire, c'est-à-dire en relation avec les moyens de production, les règles de productivité, pour l'élaboration d'une marchandise. Et c'est ce qui permet de distinguer, d'ailleurs, dans le travail comme dans la marchandise, deux aspects. Pour la marchandise, on a la valeur d'usage, c'est-à-dire le fait que une marchandise est quelque chose qui correspond à un de mes besoins. Si j'achète une chaise est une marchandise, c'est parce que j'ai l'intention de m'asseoir ou parce que je recherche un confort minimum. Et puis, il y a d'autre part, la valeur proprement dite. Par opposition à la valeur d'usage, on l'appelle la valeur d'échange. C'est la valeur que les marchandises ont dans le domaine de la circulation, sur le marché. Par exemple, ma chaise, c'est ce que je vais échanger ou ce que quelqu'un pourra échanger contre, je ne sais pas moi, 10 kilos de pommes de terre, contre 5 mètres de soie ou contre 2 heures de travail domestique, je ne sais quoi. C'est-à-dire qu'on a là le travail abstrait. Vous voyez que les notions de travail et de valeur sont des notions extrêmement associées. Et qu'au cœur de toutes les activités productives, c'est ça qu'on trouve. La marchandise, la distinction valeur d'usage, valeur d'échange, la force de travail, en ajoutant que, là, c'est une autre question, c'est la valeur d'échange elle-même n'est rendue possible que par l'appui sur une autre marchandise considérée comme l'équivalent universel, ne produit pas de valeur, mais elle est l'équivalent universel, c'est-à-dire l'argent ou la monnaie. C'est l'argent ou la monnaie qui permettent l'échange des marchandises. On peut donc dire, et c'est l'idée qu'il faut retenir de ce concept de travail, que le travail, c'est la substance de la valeur. Il est son substrat, il est le substrat de la valeur. C'est la raison pour laquelle les analyses de Marx, en particulier dans le Capital, introduisent une autre notion très importante, c'est la notion de procès de travail. Le procès de travail a une signification générale, en ce sens que le procès de travail, au départ, c'est l'activité de l'homme sur son environnement, c'est-à-dire sur la nature, pour satisfaire ses besoins, étant entendu que pour satisfaire ses besoins, il a recours aux moyens qui lui permettent d'accomplir cette transformation. Ces moyens, ce sont des outils qui sont eux-mêmes les produits de son activité et de l'activité déjà différenciée qu'il a exercée sur la nature. Alors, le point de départ, naturellement, c'est l'étroite relation qui existe entre le travail et la marchandise sous l'aspect de sa valeur d'usage. Le procès de travail proprement dit, c'est le procès de travail productif et qui est particulier au mode de production capitaliste. Autrement dit, c'est le procès de production qui va créer, celui-là, la survaleur. Une autre notion qui permet d'éclairer ce concept de travail, une fois qu'on l'a bien inscrit dans les rapports de production, c'est la notion de travailleur collectif. La notion de travailleur collectif, ça correspond à divers stades de l'organisation de la production. Et dans la pratique la plus courante, au niveau même de la perception quotidienne, on voit tout de suite qu'il y a deux formes de travail collectif dans une société donnée. Il y a le travail collectif d'ordre privé. Alors à ce moment-là, il y a appropriation par un entrepreneur, par un capitaliste. Et puis il y a la propriété proprement collective, c'est celle qui satisfait les besoins individuels et collectifs et non pas l'accumulation et le profit de la part d'un entrepreneur ou d'un travailleur. La notion de surtravail, nous l'avons déjà vue, elle permet, je le répète, d'éclairer le caractère scientifique de la notion de travail. Ce qu'on doit bien comprendre par là, c'est que la notion de travail reçoit, par l'examen du capital de Marx, c'est-à-dire l'observation du mode de production capitaliste dans sa spécificité, il reçoit un statut scientifique qui permet de le penser dans toutes ses relations avec la valeur, avec la force de travail, avec la marchandise et le fonctionnement du travail, sa présence dans l'organisation sociale.